prévenir l'émergence de comportements à risque en informant sur la toxicomanie et le jeu pathologique, c'est au cœur de la mission de notre premier organisme invité, Toxic Action, et nous avons le plaisir de recevoir Kira Chouinard-Tremblay pour nous parler de cette belle mission essentielle. Bonjour, Kira.
Bonjour.
Je disais d'entrée de jeu qu'on avait eu des travailleurs numériques, des travailleurs de rue numériques il y a quelques semaines, la Fondation des gardiens virtuels, et que maintenant, on allait vraiment sur le terrain finalement avec vous. Peut-être d'entrée de jeu nous dire un peu, un travailleur de rue, de terrain, qu'est-ce que ça fait?
Ça fait... C'est tellement une zone grise, hein. Je pense
qu'il n'y a jamais
quelqu'un qui est capable de répondre avec clarté exactement qu'est-ce qu'un travailleur de rue peut faire. Là.
On va essayer.
C'est un travail rempli de nuances. Donc, un travailleur de rue, ben, dans le nom, ça le dit, c'est d'être présent dans le milieu, accessible, dans le plus de milieux différents possibles pour rejoindre les personnes qui vont avoir des fois un petit peu plus de réticence à aller avoir accès à des services traditionnels. Donc, quand je parle des parcs, on parle des bars, on parle des maisons des jeunes pour nos jeunes, mm-hmm. on parle des fois des RPA quand on veut rejoindre les personnes aînées. Donc, on essaie de varier les sentiers. On essaie vraiment d'aller cibler aussi les lieux de rassemblement naturel. Donc, des fois, c'est pas un milieu comme tel, mais on sait qu'ils se regroupent à tel coin de rue. Mais on essaie de s'introduire dans leur monde. On essaie vraiment de s'adapter à leur propre mode de vie, des personnes qu'on essaie de rencontrer. Vous dites la vision d'un travailleur de rue, mais tu sais, elle est ma vision de moi, un travailleur de rue, elle est vraiment teintée de ma région on est au nord du lac Saint-Jean.
Mm-hmm.
Donc, on est vraiment plus type travailleur de rue rural. Donc, c'est sûr
ouais.
qu'on n'a pas la chance de juste sortir de notre local, faire un quartier pour faire notre rue. C'est sûr que nous autres, on a beaucoup plus de déplacements à faire, de milieux un petit peu à cibler. Mais le travail de rue comme tel, l'approche de proximité reste sensiblement la même. Donc, c'est d'être présent, accessible, disponible, connaître les ressources du milieu pour être le plus aidant possible pour faire les ressources, les accompagnements personnalisés puis les références personnalisées.
Donc, est-ce qu'on est dans du travail de rang?
Je m'aligne pas sur les termes parce que ça peut facilement bifurquer, là, mais
mm-hmm.
L'appellation travailleur de rue reste encore là, d'actualité, peu importe qu'elle soit faite dans un
oui,
lieu,
le contexte, le lieu.
Que ce soit mm-hmm. une rue ou en milieu rural. C'est sûr qu'on a des enjeux là, au niveau du transport en commun, au niveau
mm-hmm.
du transport tout court, mais le travail comme tel de se rendre accessible dans des milieux où les autres intervenants ne sont pas, peu importe qu'on soit en milieu rural ou en milieu de ville, c'est les mêmes contextes d'intervention.
Et le fait, justement, que vous ayez des distances peut-être plus grandes à couvrir, est-ce que c'est l'un des éléments qui a mené à la création du bunker, votre unité mobile?
Oui, on a la chance avec Toxic Action qu'avec chaque adversité, on développe des projets.
Belle mentalité.
On essaie d'être le plus accessible possible. Donc oui, ça a émergé de la chance qu'on a eue d'aller voir nos comparses aussi à l'intérieur du Québec. Donc, c'est sûr qu'on s'est inspiré de d'autres boîtes de travail de rue qui, eux, avaient vraiment une unité mobile d'intervention et on l'a adapté à notre réalité. Donc, nous, c'est vraiment un minibus. On se cachera pas que dans certaines municipalités, il y avait même pas de bar,
pas de
dépanneur, pas de maison des jeunes. Donc, on a essayé de créer notre propre milieu de rassemblement. Puis on va se dire qu'un adulte avec un sac à dos, la voix, des fois ça passe inaperçu, c'est le but. Mais d'autres fois, dans des représentations comme les festivals ou des activités où ce qu'on veut être vu et reconnu, notre unité mobile, c'est aussi un bel affichage, puis une belle place justement, où qu'on peut rejoindre les gens, puis que les gens ont eux le lieu où ils peuvent se sentir eux-mêmes, puis avoir toutes les discussions qu'ils veulent, tant que ça reste dans le respect, bien sûr.
Bien, c'est ça, ça m'amenait un peu... Je m'étais posé la question en regardant un petit peu vos activités sur votre site Internet. Est-ce que ça devenait pas justement dans des milieux ruraux comme une sorte de maison des jeunes mobile?
Non. On essaie d'être présent. Ben, les courts moments dans les milieux font en sorte qu'on ne veut pas non plus dédoubler un service ou
mais justement,
quoi que ce soit.
S'il n'y en a pas.
S'il n'y en a pas, on va rester quand même un court moment. Tant aussi longtemps que... l'objectif, c'est s'il n'y en a pas, puis que l'autobus démontre qu'il y a un besoin dans cette municipalité-là. À ce moment-là, au contraire, on essaierait de sensibiliser la municipalité à peut-être instaurer un nouveau local. Donc, loin de nous le désir de dédoubler un service ou de dénaturer notre travail. On essaie de s'adapter le plus possible à la réalité, mais sans dénaturer notre travail. Donc, on fait des courtes présences dans les milieux. Donc, on ne pourrait pas passer, mettons, une soirée entière ou une semaine entière les milieux où ils n'ont pas de maison des jeunes ou de lieu de rassemblement. Mais ça nous permet, par exemple, d'être à l'écoute de leurs besoins, peut-être justement des petites pistes de solutions pour les municipalités ou pour les places qui sont prêtes à se mobiliser, ou à d'autres places, vraiment juste être justement le premier acteur là, dans leur milieu, à juste venir prendre le temps de savoir comment ça se passe dans ce milieu-là, puis comment qu'ils vont les gens.
Vous contribuez d'une certaine manière à, non pas à faire émerger le besoin, mais à le rendre transparent, à le rendre évident, et là, vous pourriez être en mesure de faire justement des recommandations que ce besoin-là, dans la communauté, le fait d'avoir ce type de lieu-là, ça peut aider justement différents enjeux de santé publique, j'imagine?
Bien, je pense qu'avec toutes les interventions qu'on fait, c'est tantôt le travail de rue, j'ai la misère à le rendre clair et sans nuance, parce que c'est un travail de nuance, mais je pense que notre rôle, c'est créer des liens, puis à partir de ces liens-là, c'est de faire réfléchir les gens, c'est quoi leurs besoins, où est-ce qu'ils veulent aller, tout en respectant le rythme. Donc, quand on remarque des besoins, on essaie d'orienter vers les ressources, puis tu sais, que ce soit au niveau collectif, justement, peut-être sensibiliser justement des élus à l'ouverture d'un local ou tout ça, tout autant qu'individuel, ou ce que réfléchir sur les conséquences de des choix ou la recherche d'aide à d'autres services. Okay. Donc, on essaie d'utiliser cette approche-là dans toutes nos interventions.
Quand on parle créer des liens de confiance, on s'entend que, à moins, bon, on voyait que les jeunes ont des questions manifestes, mais c'est vraiment d'avoir des conversations peut-être plus générales avec eux pour être sûr que s'ils ont un besoin ou si vous voyez certains comportements, vous allez avoir un peu une certaine permission ou une écoute de leur part?
Le lien de confiance, c'est vraiment la base du travail de rue, de créer des liens, de se sentir justement à l'aise avec les intervenants non jugés. Mm-hmm. On n'est pas là pour juger le comportement, au contraire, on est vraiment dans l'ouverture, dans la transparence. Par contre, on est là pour discuter avec eux autres, leur faire voir les deux côtés de la médaille, toutes les nuances que peut apporter les conséquences de leur choix. Et tout, on devient un petit peu gymnaste dans nos interventions, honnêtement, parce que... Pour intervenir dans l'intérieur du bunker, où il y a multiples discussions, tout devient un petit peu des opportunités à de l'intervention. Les jeunes, ils ont des choses à dire, ils ont envie de parler de certains sujets. Donc, pour une fois, ils ont cette ouverture-là des adultes. Donc, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent dans notre autobus. C'est juste que faut que ça reste dans le respect. Mais
oui.
Contrairement à certaines autres personnes, on se positionne pas en expert, on se positionne pas en nous, on sait quoi faire ou non, tu dois pas faire ça, mais bien, OK, parle-moi de ce choix-là, parle-moi de cette discussion-là. Donc, les jeunes, ils se permettent beaucoup, beaucoup de plus de discussions, à mon avis, parce qu'on a cet accueil-là, puis on n'est pas là pour les reprendre, mais bien plus pour les faire réfléchir, puis ça nous permet, nous, comme je disais, avec notre gymnastique, de créer des opportunités pour discuter de divers sujets, amener notre prévention avec qu'est-ce qui les intéresse vraiment. Donc, on se permet aussi de se coller plus à leur propre réalité. Donc, c'est pas juste, OK, aujourd'hui, on parle de drogue, ou aujourd'hui, on parle de je sais pas quel sujet, du consentement. Non, on se colle vraiment à leur réalité. OK, le vendredi, ils sont préoccupés par, je sais pas, un party qui se passe. Bien là, on peut parler des notions d'indépendance, la loi de l'effet, tout ça. Mais tu sais, si au contraire, ils nous parlent, dernièrement, ils ont eu des altercations avec des amis, bien là, on va parler vraiment de relations, d'habileté sociale. Donc, on se colle toujours à leur réalité. On s'adapte beaucoup. Puis on gymnaste, comme je dis, au niveau des interventions avec les opportunités qui nous donnent.
Donc, vous partez de préoccupations qui sont importantes, évidemment, pour eux, mais qui pourraient, dont il y a peut-être des traces potentielles de comportements à risque qui pourraient émerger.
C'est sûr que c'est à nous d'être vigilants tant qu'intervenants. Donc, c'est sûr que quand ils nous parlent de relations sexuelles, ben on rentre vite avec notre matériel de prévention. T'sais, l'autobus est est aménagé aussi en fonction qu'on a un tiroir plein d'ateliers de prévention, des outils pour attirer l'œil, pour créer des discussions, des questionnements. Donc, c'est sûr qu'on cette gymnastique-là, on la crée aussi. On essaie de créer le plus d'opportunités pour passer nos contenus, tout en sans être un atelier vraiment plus cadré ou ce qu'on donne de l'information. On essaie vraiment de coller ça à leur propre réalité, mais c'est sûr qu'on essaie le plus possible de créer ces opportunités-là pour venir parler des sujets qui tiennent à cœur l'organisme. C'est notre raison d'être aussi.
Vous avez développé une certaine orientation ou certains axes d'intervention, donc davantage autour de la toxicomanie, sexualité, ITSS, jeux pathologiques. C'est plus ça qui est votre champ d'intervention?
On est le seul organisme dans notre territoire qui fait la prévention des dépendances, donc c'est sûr qu'on vient, c'est notre champ d'intervention principal où on est le plus formé, les plus... plus attrait, plus collé avec les meilleures pratiques. Mais étant donné que le travail de rue, c'est une approche qui est quand même assez très, très globale et très généraliste, on se doit, malgré le fait d'être en contact directement avec les personnes, on se doit un peu d'être au courant de toutes les autres problématiques le plus possible, ou du moins d'être la porte d'entrée à leurs questionnements et d'aller chercher les ressources qui sont capables de répondre aux questionnements des jeunes. Un peu comme je disais tantôt, si on voit un besoin mais qu'on n'est pas capable d'y répondre, c'est pas notre mission. Par contre, notre travail, c'est de faire la référence personnalisée, de faire la collaboration avec les organismes du milieu, de connaître nos partenaires, de connaître vers qui orienter les gens. Mais c'est sûr que nous, nos sujets principaux avec lesquels on est plus habitués de créer des opportunités, bien, c'est sûr que c'est la dépendance, la consommation, que ce soit justement des écrans, de jeux d'hasard ou d'une substance, et aussi tout ce qui est comportement au niveau de la sexualité, que ce soit les relations interpersonnelles, les relations amoureuses ou, comme on disait, la sexualité avec les ITSS, la contraception.
Puis avec votre vision généraliste, vous êtes en mesure, justement, là, je vais reprendre votre formule, de créer des liens, parce que peut-être c'est un enjeu de nature sexuelle ou de nature conflictuelle dans une relation qui peut emmener quelqu'un à vouloir décompenser en jouant plus ou en utilisant une substance pour gérer son stress.
C'est sûr que nous, on est vraiment... c'est sûr qu'à la base de l'organisme, on utilise l'approche de réduction des méfaits. Puis comme j'ai dit tantôt, on se positionne vraiment pas comme les experts de quoi que ce soit. On essaye vraiment d'être le plus possible transparent, à l'écoute, dans l'accueil. Donc, on n'est pas là pour juger le comportement. Puis ça fait une grande différence. Ouais. Tu sais, tantôt, je disais, ils se permettent des discussions avec nous qui, des fois, ils n'ont pas avec d'autres adultes, parce qu'on n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour leur dire quoi faire, quoi pas faire. Il y a une panoplie d'autres personnes qui font ça dans leur vie.
L'impression que leurs parents font déjà ça aussi.
oui, leurs parents, leurs profs, les nouvelles. Tout le monde fait ça. Puis pour une fois, avec nous, on leur demande, OK, ben qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Comment tu as trouvé ça? Puis déjà, de juste poser cette question-là, souvent ils font le saut, c'est la première personne qui s'intéresse vraiment à mon expérience, parce que, puis moi, en arrière de ça, je vais savoir, tu vas-tu la reproduire, ton expérience? Qu'est-ce que tu vas changer pour que ça devienne plus positif? Est-ce que tu as des alternatives à la consommation? T'sais, ça, c'est vraiment notre gymnastique que je disais tantôt, c'est développer des alternatives à la consommation. C'est la base aussi. C'est pas juste parler de dépendance puis de consommation puis de substances, mais quand tu vas pas bien, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes trucs? Avec qui tu jases? C'est vraiment ça aussi qui fait que on devient, oui, les experts sur au niveau de la dépendance, les notions en soi, mais des liens de confiance qu'on crée nous permet d'aller jouer sur le facteur de protection qui, à long terme, va devenir souvent des outils très, très importants dans la vie de ces gens-là.
Kira, je vous entends et je me dis, comme parent, je pense que ce sont des questions ouvertes qui sont inspirantes, peut-être pour garder la conversation avec nos jeunes. Je vous propose de prendre une courte pause et de poursuivre la discussion tout de suite après.
Thank you.
De retour aux héros anonymes, nous sommes en pleine discussion avec Kira Chouinard-Tremblay, coordonnatrice clinique de Toxic Action. Kira, vous avez énoncé une expression que peut-être certains auditeurs voudront mieux comprendre, qui est la réduction des méfaits. De quoi parle-t-on?
C'est vraiment notre approche d'intervention, une des approches d'intervention qu'on utilise à l'organisme. Donc, l'approche de réduction des méfaits, c'est vraiment plus, comme je disais tout à l'heure, d'être dans l'ouverture, dans l'accueil. Donc, on ne vient pas juger le comportement comme tel. On vient vraiment regarder avec la personne, bien, qu'est-ce que ce comportement-là peut t'amener de négatif dans ta vie? On l'associe beaucoup à la consommation, là, dans les médias. Mais moi, cette approche d'intervention-là, je la vois pas juste au niveau de la consommation. Ah oui, tu choisis de consommer, je vais te donner du matériel stérile avec l'accompagnement. C'est vraiment plus, c'est... Ben, tu choisis de te chicaner avec ta mère, puis tu as des propos violents, ben ça t'amène des conséquences, ce choix-là. Puis nous, on regarde ensemble, ben, c'est quoi que les conséquences de ce choix-là t'a amené, puis qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir, t'es-tu à l'aise? Donc, la réduction des méfaits, c'est vraiment une approche d'intervention à la base de toutes nos interventions à Toxic Action. Autant, comme je disais tantôt, en lien avec la dépendance ou la consommation, avec la sexualité, ben le comportement, c'est j'ai une vie sexuelle, OK, je suis peut-être plus à risque d'attraper une ITSS ou de développer une grossesse. Donc, ben, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je suis à l'aise avec ce choix-là? C'est quoi les conséquences? Est-ce que j'ai accès au dépistage? Donc, c'est vraiment d'être dans l'ouverture et non dans le jugement du comportement, mais de réfléchir à ce comportement-là, puis d'y aller dans toutes les nuances du comportement. Tu sais, tantôt, j'ai frôlé, ben, la personne, si elle consomme, c'est parce qu'elle va chercher quelque chose là-dedans. On va en parler. Puis on va essayer de réduire.
Adresser le besoin qui est derrière
exactement.
Ça.
Exactement.
Et dites-moi, bon, on a parlé de votre essentiel travail de rue maintenant. Bon, le bunker et tout ça. Il y a des ateliers de prévention aussi que vous faites plutôt en milieu secondaire.
Oui, on a régionalement, ben, au niveau du Québec, là, il y a eu un changement pour qu'on essaie d'avoir de la prévention universelle similaire pour tout l'ensemble du Québec pour les jeunes là, de 12 à 17 ans. Donc, à Toxic Action, on a la chance de faire ces ateliers de prévention-là dans les écoles avec les jeunes. C'est environ deux ateliers. Ben, réalistement, c'est un à deux ateliers par niveau au cours de leur secondaire. Ces ateliers-là, comme je disais tantôt, ça peut être autant pour développer des facteurs de protection, adresser des choses pour qu'il y ait une place pour parler de la consommation, poser les questions à des intervenants formés, mais c'est aussi pour qu'il y ait la porte d'entrée vers toutes les autres ressources. Donc, nous, on est là, oui, en atelier, mais en plus, le bunker est là sur l'heure du dîner. En plus, les travailleurs de rue sont là dans leur milieu le soir, donc c'est pour pouvoir garder aussi toute une continuité afin que les jeunes, s'ils ont des questionnements, ben ils sachent qu'on existe, ils sachent qu'on a les réponses, puis quand on n'a pas les réponses, qu'on soit en mesure de les référer vers les bonnes personnes. Donc, tout ça.
Puis les parents d'adolescents là-dedans, est-ce que vous êtes en mesure de les aider, de les outiller aussi? Puis à quel niveau, quand on est déjà dans le problème ou en sensibilisation, comment vous pouvez les aider?
On a un groupe qui s'appelle le groupe APAM. C'est l'association de parents d'adolescents Maria Chapdelaine. Ce groupe-là est vraiment des ateliers basés sur la communication. Donc, c'est pas des ateliers justement de gestion de crise ou de pour résoudre une problématique émergente. On est vraiment là basé sur la communication. Aussi, c'est des prises de conscience pour les parents de se rendre compte que les jeunes, ils passent d'une transition entre le jeune et l'adolescence. Donc, plus de responsabilités, plus d'autonomie, mais ça amène aussi plus de conséquences ou moins d'encadrement. Donc, on fait aussi prendre conscience multitude de réflexions dans ce groupe-là de parents. Puis c'est vraiment merveilleux de voir les parents, entre eux autres, se poser des questions, rationaliser, voir qu'on n'est pas seul à vivre ces situations-là. Puis comme je disais tantôt, nous, ça nous permet de faire notre gymnastique. Au niveau des créateurs de liens, je ne cacherais pas que c'est notre force, donc essayer de centrer vraiment les interventions. Bien, intéresse-toi à ton jeune, est-ce que tu as pris le temps de discuter, de voir c'est quoi lui puis c'est quoi qu'il va chercher dans ses comportements-là. Intéresse-toi à sa situation, parce qu'on ne se cachera pas que à chaque année, il y a des nouvelles tendances. Donc, des fois, on a beaucoup de parents qui appellent. OK, là, mon jeune, on a passé beaucoup de temps sur les écrans, ils s'inquiètent. Il y a eu l'émergence au niveau de... On a parlé beaucoup dernièrement là, de la wax pen. Donc, il y avait beaucoup de parents qui étaient préoccupés par ça.
De la quoi? Excusez-moi, de la wax pen.
Donc, la consommation de cannabis par vapoteuse. Donc, les parents, justement, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Ils essayaient d'aller chercher de l'information. Puis ces ateliers-là, on essaie... Tu sais, des fois, on fait des ateliers de prévention, de sensibilisation, peut-être plus au niveau collectif, donc pour la population en général. Souvent, c'est justement des mamans ou des personnes de la population qui... sont préoccupés par un sujet spécifique. Donc, nous, on essaie d'être un peu les répondants pour ça. On essaie d'aller chercher la bonne information, se regrouper avec les acteurs, des fois, qui ont la bonne information. Et quand c'est possible, on déploie l'atelier pour la population en général pour essayer de répondre à ce besoin-là qui nous est adressé. Des fois, ça vient des parents, des fois, ça vient du réseau scolaire, des fois, ça vient des jeunes. Donc, on essaie d'être le plus collé sur les besoins là, directement vécus dans le milieu.
Et dites-moi, Kira, j'ai vu que vous intervenez aussi auprès des personnes âgées et c'est rare que je vois dans votre type d'organisme là, qu'on s'intéresse aussi à cette clientèle-là. Souvent, on remarque plus qu'il y a une concentration auprès d'un audience cible, un groupe cible. Donc, qu'est-ce qui vous a amené aussi à faire de l'intervention auprès des personnes âgées?
C'est sûr que notre mission depuis 1996, elle a évolué. On s'adapte, comme je disais depuis le début de l'entrevue, à la réalité de notre milieu. En travail de rue, on est amené à voir de plus en plus de personnes là, de 50 ans et plus qui vivaient d'énormes vulnérabilités, que ce soit dû à la consommation, que ce soit dû à l'isolement, que ce soit dû à des séparations. Donc, à la fin de l'année, quand on fait notre rapport d'activité, de prendre conscience de tout ça, on s'est dit, OK, on va essayer de faire quelque chose. Donc, le travail de milieu aîné, ça nous a permis d'essayer de varier, d'augmenter la présence dans des milieux où ce qu'on rejoignait déjà des personnes de 50 ans et plus. Donc, c'est un peu la nuance, c'est d'être vraiment plus accessible dans ces milieux-là. Je pense on a une réalité, nous, on a un RPA avec un bar à l'intérieur, puis des jeux de... des appareils de loterie vidéo. Donc, c'est sûr que les présences dans ces milieux-là, on les a augmentées grâce au travail de milieux aînés. Les municipalités aussi qui sont un petit peu dévitalisées, ben on essaie d'être le plus présent possible, le plus visible possible, parce que c'est sûr que c'est des personnes, des fois, qui vivent de l'isolement, qui ont besoin d'être connectées à la communauté. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait avec le travail de milieu aîné.
Donc, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait aller aussi loin que dans un café, vous voyez qu'il y a toujours les mêmes personnes qui prennent leur café seules, qui n'ont pas l'air bien. Est-ce que vous pourriez aller lui parler?
C'est exactement le style de gymnastique que j'essaie de tantôt de créer des opportunités, les saisir. Donc, c'est sûr que nous, notre mission, c'est de faire du repérage dans les milieux. Donc, on fait pas de porte-à-porte pour voir les personnes isolées. Donc, c'est sûr qu'on passe à côté d'une panoplie de personnes. Ça, j'en suis très consciente. Mais d'être dans les milieux, voir justement la personne qui vient prendre sa marche toujours à la même place, c'est sûr que moi, je vais venir me placer près de cette personne-là. Je vais venir m'intéresser au journal qu'il lit. Donc, c'est un peu le genre de gymnastique là, que j'essaie de démontrer que le travail de rue, le travail de milieu fait... Puis que ce soit pour les 12 ans, que ce soit pour les 15 ans, que ce soit pour les 60 ans, développer un lien avec quelqu'un, c'est vraiment la base de notre travail. Puis c'est un peu comme ça qu'on le voit quand on dit on essaie d'être accessible et disponible pour les gens. Bien, c'est de démontrer notre intérêt envers ces personnes-là, essayer d'être justement le plus disponible possible par des petites questions, s'installer proche. Donc, on a des petits trucs quand même pour créer ces opportunités-là, pour rejoindre ces personnes-là.
Puis bon, il y aura encore d'autres volets dont on aura pu discuter. Vous avez un programme qui s'appelle Tapage aussi, en pré-employabilité.
Oui. Notre bébé, dans le fond, notre bébé qui n'est plus tellement bébé, là, depuis 2020, Tapage est à l'intérieur de l'organisme Toxicaction, puisque ce que je trouve beau, c'est un peu ce que je disais tantôt. On est allé chercher encore une fois quelque chose qui existait ailleurs et on l'a adapté à notre région. Nous, justement, ta page, c'est pas juste pour les personnes, les jeunes. Donc, on l'a vraiment adapté. Nous, au contraire, c'est 18 ans et plus. Pré-employabilité, oui, mais vraiment une approche de réduction des méfaits. On n'est pas là pour être un tremplin nécessairement vers le marché du travail, mais vraiment en réduction des méfaits. Donc, les gens, ils peuvent venir passer des courts moments avec des intervenants sur des plateaux de travail.
Travailler un peu, son paye est cash. Et Kira, je vous remercie. Je vais inviter nos auditeurs à découvrir l'ensemble de vos services sur votre site Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup.